postiers, les matons, les postiers, ils étaient tous au service de l'État. Et maintenant, j'ai découvert que finalement, c'était aussi des hommes. Et tout à l'heure, j'ai encore signé des livres à des postiers et on a convenu que finalement, nous étions tous des hommes. C'est un regret de n'avoir pas évolué tout seul sans intégrer dans ma problématique ces gens-là qui n'en ont rien à faire, en fait.
Mais je crois que d'ailleurs que Jacques Fazel a eu le même genre d'attitude et de regret.
Ouais, tout à fait.
A eu le même genre de constatation lors de son dernier procès. Hein.
Oui, quand il a vu la peur dans le regard de ses postiers où lui attaquait des banquiers, donc quand il a vu la peur dans ces gens qui sont effectivement, qui n'ont rien à faire dans cette lutte. Bon, on peut dire qu'objectivement, ils sont au service de l'État, mais quand il y a la réalité, quand il y a un homme en face de soi, ça tient un peu difficilement. Hein.
Si eux sont au service de l'État, tout le monde l'est. Alors.
Absolument, oui.
Non, par exemple, moi, je ne le suis pas. Et j'aimerais dire, oui, c'est Max qui parle, là, vous l'aurez deviné. Les postiers ne sont pas des agents de la répression. Alors, je comprends parfaitement Daniel lorsqu'il dit qu'il regrette d'avoir eu des réactions à leur égard qu'il regrette maintenant. Et en revanche, les policiers sont des tueurs stipendiés par l'État. Ce sont des nervis, des gens qui, s'ils n'étaient pas du bon côté de la barrière, seraient considérés comme des assassins. Et la plupart d'entre eux sont des malades et relèvent de la pathologie. Ainsi donc, les flics, je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, sont des gens devant lesquels il faut, envers lesquels il faut prendre certaines dispositions. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui, où, je lis encore le journal d'hier, on voyait que dans le canton de Fribourg, à Bulle, et je ne sais où encore, enfin dans tout le canton de Fribourg, Châtel-Saint-Denis, il y a eu des interventions policières illégales, c'est-à-dire qu'elles sont intervenues avant l'heure d'intervention légale, qui est de 6 heures du matin. Elles se sont avérées à, je crois, 5 heures ou 5 heures moins le quart le matin. Ceci à des fins de contrôle et sous prétexte de chercher des nids de politicards, comment dire, des nids subversifs étrangers. Là-dedans, on parlait aussi de vols qui auraient eu lieu dans les établissements publics du canton. Et c'était un prétexte pour intervenir. Donc, tout ce qui peut être étranger, tout ce qui peut, tout ce qui a trait à, aux réfugiés, de colorés de préférence, a des... est immédiatement culpabilisé. Donc, je dis que ce qui est juge, ce qui est policier, doit actuellement passer par une cure. Et il n'y a pas que les prisonniers qui doivent se faire psychanalyser. J'ai l'impression que les juges, les policiers, et toute la bande qui est au pouvoir doit réfléchir, si elle le peut, j'en doute, mais il faut leur aider. Alors à cet égard, je veux bien leur aider, être d'un quelconque secours.
Ce que dit Max me fait penser à la révolte. Et comment s'est déroulée cette révolte? Parce que elle existe encore aujourd'hui.
Oui, puis en corollaire, dans quelle mesure est-ce que vous approuvez la révolte verbale, la manière assez violente qu'a Max de s'exprimer sur et contre l'État et ses institutions.
Oui. Max va très loin, mais je dois admettre que d'expérience, si on lit, disons, comme j'ai été traité en tant qu'objecteur, alors que je n'avais jamais rien fait de mal, hein, que j'étais encore jusque-là un étudiant modèle, un soldat, bon, plus modèle puisque j'avais arrêté l'armée, mais que je l'avais faite. Puis effectivement, je dois dire que, d'une certaine manière, c'est quand même le comportement des policiers et des gardiens. Je ne mets pas tous les gardiens dans le même paquet, mais disons, le rôle du gardien est quand même le massacre affectif de l'individu sous couvert de le réinsérer socialement. Donc il y a ce discours de la réinsertion sociale, il y a le discours que la police est effectivement est au service de la sécurité je dois dire à court terme, parce que justement à long terme, elle crée des révoltes. Je suis obligé d'aller un peu dans le sens de Max, effectivement.
Alors ta révolte n'a fait qu'augmenter au cours de ces années.
Absolument. Alors disons que on m'a mis une sorte de réservoir de haine lorsque j'étais à Bellechasse, que j'ai dû distiller, que je n'ai pas pu. Donc c'est pour ça que je me suis révolté, parce qu'on m'a effectivement traité comme le pire des criminels, on m'a enchaîné, j'ai été transporté dans mes vomissures. Ensuite, j'ai subi 3 mois et demi de déprivation affective pour l'objection de conscience. Après, j'en ai vécu quasiment 5 ans. Et je peux dire actuellement encore, que ce soit à Bochu ou à Bellechasse, on transforme quand même les hommes en individus complètement désaffectés.
Et vous êtes révolté encore aujourd'hui ? Bien. Ça se manifeste différemment ?
Alors, je dirais que j'ai eu la chance de rencontrer des individus fantastiques. Et que c'est eux qui font que la haine que j'ai encore en moi ne s'exprime pas. Elle s'est exprimée encore un peu dans ce livre, qui est assez fort, qui est assez même violent à certains moments. Mais grâce justement à l'amour, à l'amitié de beaucoup d'individus, ça me permet d'aller un peu plus loin dans ma vision de l'État, du système, de l'organisation sociale suisse. C'est ça qui me fait supporter cette organisation.
Il faut rappeler aussi que vous avez fait des études pendant que vous étiez en prison. Est-ce que ça a permis des études de sociologie, de sciences politiques ?
Oui, alors là, je peux dire que si on tape assez dur, effectivement, sur le pénitencier de Bochu au niveau de l'affect, je dois dire quand même qu'on nous a permis, à moi en particulier et à quelques autres, de faire des études. Ça, c'est vrai. C'est un des points forts de Bochu. Mais il n'en reste toujours pas moins qu'on massacre affectivement.
Mais est-ce que ces études vous ont permis de prendre de la distance en analysant comme ouais, ça, le système fait. Étatique, la société ? Est-ce que ça a permis de prendre une distance et de moins passer à l'action ou d'un jour de ne plus passer à l'action ?
C'est ça. Disons, pour certains individus, ou de mes camarades qui étaient enfermés, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer verbalement, ils finissent soit par faire une évasion, un point fort, on en a vu dernièrement. Donc on donne des coups de poing parce qu'on ne peut pas s'exprimer. Alors moi, pour l'instant, à défaut de donner des coups de poing, effectivement, je donne des coups de livre, si on veut.
Et pour l'avenir ?
Ben, on verra les réactions, on verra si je suis toujours dans un tissu d'amitié qui me permet de m'exprimer. Je crois que c'est effectivement la possibilité de m'exprimer qui me sauve du passage à l'acte.
Je sais pas si j'ai encore à l'instant là des questions pour Daniel Bloch.
On va en avoir.
Peut-être que Max voulait.
Max a sûrement quelque chose à dire.
Max, il a toujours des tas de choses à dire.
Oui, évidemment, je sais jamais par quel bout commencer du reste. Mais moi, je voudrais simplement dire que l'illégalité paie, la lutte paie. Et pourriez-vous me dire, alors accourez à mes auditeurs, si vous pouvez me donner la réponse, vous pouvez me dire s'il y a une lutte qui a jamais débuté dans l'illégalité, une lutte sociale, s'entend. Moi, je n'en découvre aucune.
Qui n'a alors, pas débuté dans la légalité
qui n'est pas débuté dans la légalité. C'est-à-dire que toute lutte débute est à l'origine illégale.
Est-ce qu'il y a un prix pour l'auditeur qui en trouverait une ?
Moi, je veux bien lui donner 100 francs, mais enfin...
On n'a pas assez de sous, assez de...
Non, mais moi, je veux bien lui donner 100 francs. Hein. Je m'endetterai, mais au moins, il aura eu la perspicacité, l'opiniâtreté dans ses recherches, et il sera venu le démontrer. Alors moi, pour moi, la démonstration est une grande chose.
Mais Max pense à l'argent, mais je pensais à un prix symbolique.
Oui, bon, d'accord, je l'embrasserai, voilà. Vous voyez, la lutte paie parce que il semble bien que les luttes qui ont eu lieu en début d'année, les revendications et la grève qui a eu lieu en début d'année, le 19 janvier, je crois, elle paie. Dès le 1er juin, à Bochu, fonctionneront des parloirs familiaux. Le pécule est assuré à un minimum de 18 francs par jour. Il y aura la suppression des points de conduite qui influençaient ce pécule. Il y aura l'ouverture des cellules jusqu'à 20h30 et l'obtention de la quatrième visite mensuelle. Alors, n'est-ce pas, c'est la lutte qui paie. Et Daniel, qui est ici, a vécu donc à Bochu, et il sait très bien, je vais le laisser confirmer, que c'était déjà des revendications qui avaient lieu de longue date, n'est-ce pas?
Oui, alors tout à fait. J'ai eu la surprise de lire certaines autorités prétendre que les grévistes n'avaient pas demandé quoi que ce soit et s'étaient mis tout de suite à faire des violences au bâtiment, etc. Et alors, j'ai un petit dossier quand même où effectivement toutes ces revendications ont eu lieu depuis des années, notamment les parloirs intimes. D'ailleurs, on en avait sous Pité, hein, et c'est la nouvelle direction qui les a supprimés, ça, il faut aussi le savoir. Donc, il y a eu un recul dans les contacts affectifs sous la nouvelle direction. Il y a eu,
qui est celle de Clotty, donc je le précise. Voilà.
Il y a eu un bouclage aussi des couloirs. Enfin, il y a eu tout un tas de répressions progressives. Et on nous avait dit, on va mettre un peu des barreaux supplémentaires, des grilles autour du pénitencier. Donc, on a mis encore des grilles sur les barreaux en plus. Mais on va libérer l'intérieur. Et c'est absolument pas du tout ce qui s'est passé. Et je dois admettre, alors très malheureusement, que toutes nos demandes qui ont été faites sur un temps modéré, par des lettres, par des pétitions, etc., n'ont absolument jamais abouti. Et c'est après ces grèves et ces destructions que maintenant on voit, enfin je ne sais pas si c'est encore réalisé, mais qu'on verrait un début de réalisation de ces revendications. Alors que pendant 3 ans, on a demandé des trucs, nous, et jamais ça n'a abouti.
C'est ça. Donc Clotty et toute la clique du pouvoir cherchent toujours l'épreuve de force pour essayer de ruiner un projet qui pourrait parfaitement se dérouler normalement, légalement. Donc, vous voyez, amis auditeurs, que nous qui prenons la parole ici, nous qui nous révoltons à juste titre, nous savons que plus on lutte, mieux ça vaut, plus on lutte, plus ça paie, et on ne peut malheureusement pas toujours se borner à faire entendre raison à des gens qui sont rétifs à la raison, qui n'entendent pas d'autre discours que celui d'un octave supérieur. Souhaitons qu'on en reste à un octave supérieur, parce que moi-même, je connais une autre façon de se faire entendre, une façon plus éclatante, si vous voyez ce que je veux dire. Mais nous pensons que la raison triomphera, bien sûr.
Je voulais encore poser quelques questions à Daniel Bloch. C'est possible?
Oui, bien sûr.
Je voulais vous demander comment ce livre a été accueilli, ce manuscrit d'abord par les éditeurs, et ensuite au Salon du Livre, puisque vous avez été au Salon du Livre. Je crois que tout a été fait pour que vous y soyez.
Oui.
Et puis, qu'est-ce que vous attendiez des lecteurs? Est-ce que vous l'avez d'abord écrit en somme pour vous, ou bien tout de suite en pensant aux lecteurs?
Non, alors disons, c'était d'abord... quand je souffrais trop dans ma cellule, parce que j'ai passé environ 22 heures sur 24 heures pendant 5 ans dans 6 mètres à 8 mètres carrés, en comptant les visites, en comptant les promenades, en comptant les congés. Parce que j'étudiais en cellule, c'était une chance, mais c'était aussi un isolement total. Hein. Donc ça fait environ, on va descendre à 21 heures. Donc vous vous figurez, pendant 5 ans, j'ai fait 21 heures de moyenne dans 6 mètres carrés. Alors bon, ça laisse pas mal de désespoir, ça laisse aussi beaucoup de temps de libre, à condition de l'utiliser, c'est une richesse. Et c'est là que j'ai confié, disons, un ordinateur que j'avais en cellule, tout un tas de pensées que je mettais soit par ordre, soit en désordre, et que j'ai repris plus tard. Donc c'était des fragments de sentiments que j'ai écrits sur cet ordinateur. Et puis après, je suis sorti, donc en liberté provisoire, ce que je suis actuellement. Et j'ai d'abord fini mes études, une licence en sciences économiques et sociales. Et puis, comme je n'avais pas encore envie d'entrer dans le système du travail qui est prôné ici en Suisse, je me suis dit, je vais voir un petit peu mes écrits. Et je suis parti dans ce jeu de mettre en ordre, de reprendre chronologiquement tout ce qui s'était passé.
C'est reconstruire une vie aussi.
C'est un petit peu, effectivement... redigérer tout ça. Hein. Ça revenait, c'était une redigestion. Et puis, après, j'ai donné des extraits à d'autres personnes, d'amis, et elles ont dit, tiens, c'est intéressant, continue. Et puis, tout à coup, bon, c'est vraiment sorti toujours plus vite. Et une fois que j'avais environ 300 pages, je l'ai donné à une amie qui était en relation avec un éditeur. Et puis, j'ai encore envoyé à d'autres éditeurs pour voir ce que ça donnait. Et à ce moment-là, tout à coup, les éditions de l'air ont répondu positivement. Alors, c'était un pari, un peu, dans le sens que ça me semble assez extraordinaire, tout à coup, qu'il y ait une réponse sociale. Et je peux aussi dire qu'il n'y a pas eu de censure, qu'il n'y a pas eu de pression pour me faire enlever quoi que ce soit.
Le texte est intégral.
Le texte est intégral, absolument. Et je peux dire que ça, c'est un signe quand même de santé, un des signes de santé de notre démocratie. Parce que là, on laisse quand même passer le message. Et j'ai pu m'exprimer au Salon international du livre aussi. Là, je peux dire que vraiment, il y a eu un dialogue entre les gens. Il y a après des gens qui sont venus où on vendait le livre. Ils sont venus discuter. Il y a eu des postiers, il y a eu des policiers, il y a eu des vieux, il y a eu des jeunes, il y a eu d'anciens objecteurs, de nouveaux. Enfin, c'était un vrai dialogue.
De toutes les réactions ?
Eh bien, j'avais pensé qu'il y en aurait de très négatives. Et pour l'instant, en tout cas, celles qui ont été exprimées vis-à-vis de moi, elles ont été que positives. Mais je sais que d'autres aimeraient bien interdire ce livre. Mais ils ne se sont pas exprimés vis-à-vis de moi. Ils sont en train peut-être d'organiser une résistance souterraine, mais il n'y a pas eu d'expression négative, parce que j'aimerais pas que ce livre soit perçu comme un défi. C'est vraiment une explication, un désir de renouer un dialogue.
Je propose à ceux qui désirent interdire ce livre de m'inviter et d'avoir une explication avec moi. Et je leur donnerai l'explication qui convient. Je vais encore dire quelque chose. Hein. Bon, amis détenus, n'oubliez pas de résister, de désobéir, de subvertir et d'anoblir.
Et de lire le livre de Daniel Bloch.
Ah voilà, voilà oui. Ce qu'il fallait dire.
Merci Max, merci Daniel Bloch, à une prochaine fois.
Merci.
Pensez de payer.
Voilà, on va maintenant parler du dernier conseil communal, la dernière séance du conseil communal de Prix avec Monsieur Dante. Bonsoir Monsieur Dante. Monsieur Dante, vous êtes à l'antenne ?
Oui, je suis là.
Voilà, très bien. On va parler avec vous de cette dernière séance du conseil communal de Prix qui s'est donc déroulée lundi passé, 18 mai à 20h.
Oui.
Quel a été en fait le sujet principal ? J'ai sous les yeux
Alors, il y a eu deux
l'ordre du jour
et qui avait, disons, la même importance. Mais le plus intéressant était certainement le nouveau plan d'extension partielle que nous appelons Ambrois, qui se situe un peu au nord de la route de Cossonay et entre la route de Broye et la limite de la commune d'Ornans. C'était donc jusqu'à présent une zone villa et ça va passer maintenant en zone commerciale et administrative.
Est-ce que ça représente un grand périmètre ?
Ça représente une surface de terrain de 23 000 m², c'est-à-dire pratiquement 12 000 m² de surface commerciale et 1 200 m² de logement. Alors le projet, je dois dire qu'est un bon projet, suscitait quand même au sein du conseil communal, quelques oppositions. Disons que lors de la mise à l'enquête, ce projet a suscité 32 oppositions de propriétaires voisins. Et malgré l'intérêt de ce projet suscitait aussi au conseil communal quelques oppositions. Mais enfin, finalement, il a été donc accepté à une très forte majorité. Ce qu'on lui reprochait peut-être, c'était que c'était un projet qui est très partiel, si vous voulez, et on aurait souhaité, en tout cas, savoir sur les 5 ou 6 autres parcelles importantes qui peuvent recevoir encore des plans de quartier, quelles étaient. Thank you.